Bonjour à toutes, bonjour à tous, Marc Doucet, donc bienvenue sur ce forum d'introduction à la comptabilité de Comptalia. Donc je vais commenter le sujet d'anal donc de juin 2017, donc concernant donc cette épreuve de comptabilité générale. Alors on va d'abord parler des généralités et puis après on rentrera un petit peu plus dans les détails. Donc ce sujet, donc 3 heures comme d'habitude, hein, coefficient 1, qui comportait 4 dossiers, alors d'importance très inégale. Un premier dossier concernant les objets et les principes de la comptabilité pour 1,5 point. Un deuxième dossier concernant des opérations courantes sur 6 points. Un troisième dossier concernant les travaux mensuels sur 4,5 points. Et un quatrième dossier, le plus important en termes de points, concernant les travaux d'inventaire. D'accord ? Donc, sur 8 points. Donc, ce que l'on peut dire d'un point de vue général, c'est que très objectivement, il n'y avait pas de difficultés techniques majeures dans cette annale de 2017, très honnêtement. D'accord ? Ça, on peut le dire. Il y avait en revanche pas mal, mais c'est le cas depuis plusieurs années, et dans les conseillers pronostiques, que ce soit Didier Coudor ou moi ou tout autre, on vous le dit souvent, la tendance, c'est vrai, à vous demander de plus en plus des extraits de cours ou des définitions ou ce genre de choses. Donc ça, bien entendu, ça prend de plus en plus d'importance. Mais très honnêtement, en termes de difficultés, c'était tout à fait abordable. On a vu pire, je peux vous le garantir. Il suffit pour ça que vous, et j'espère que vous l'avez fait quand même, que vous consultiez les annales à votre disposition que vous avez sur votre plateforme. Donc là, de ce point de vue, c'était tout à fait acceptable. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas la calculatrice cette année non plus. Maintenant, les calculs, comme à chaque fois qu'il n'y a pas de calculatrice, très honnêtement, les calculs n'étaient pas très compliqués. Hein. Il ne faut pas s'affoler pour ça. D'accord. Donc le seul petit reproche que l'on peut faire objectivement à ce sujet, mais ça c'est pas un scoop, c'est un problème de temps, parce que pour le faire, c'est vrai, en 3 heures pour avoir 20/20, c'est pas forcément évident. Mais c'est le seul petit souci que l'on pourrait trouver sur ce sujet. Alors maintenant, quand on rentre un petit peu plus dans les détails, dans le premier dossier, objet et principe de la comptabilité. Alors là, bon, c'est grand classique, c'était quand même pas difficile. Définition, objectif de la comptabilité, citer 2 livres comptables obligatoires en France en précisant leur contenu, préciser le contenu du libellé dans une écriture comptable, indiquer l'intérêt de cette information. Donc accordez-moi très franchement que ça, c'était quand même, alors ça valait 1,5 point, c'est vrai que ça valait pas grand-chose, mais en gros, franchement, je pense que n'importe qui était capable d'avoir 1 point, allez, on va dire 1 point sur les 1,5 point, et en très peu de temps, vous me l'accorderez. Dans le dossier 2, ce sont les opérations d'inventaire. Alors là, bon, les opérations courantes, excusez-moi. D'abord les opérations courantes dans le dossier 2. Donc dans le dossier 2, d'abord, indiquer la valeur d'enregistrement du limo corporel produite par l'entreprise par ses propres moyens. Bon, mais ça, vous l'aviez dans le cours, bien entendu. Hein, ça, c'est le cadre des livraisons à soi-même. Donc là, il n'y a pas de difficulté majeure. Ça fait partie des choses qui... On est censé savoir, bien entendu. Donc la valeur d'entrée, c'est évaluer dans ce cas-là son coût de production avec les matières, les charges directes, indirectes, etc. de production. Lesquelles, évidemment, charges directes et indirectes de production, dans le cadre de cette UE d'introduction à la comptabilité, vous serez fournis par l'énoncé, bien entendu. Deuxième question, donc, enregistrer les opérations de l'annexe 1. En fait, il s'agit ni plus ni moins que d'écriture courante. Alors, vous verrez que dans la correction, nous avons intégré, alors que ce n'était pas demandé, mais c'est pour faciliter le travail, nous avons intégré la facture, si vous voulez, la présentation de la facture, alors que c'est pas demandé. Mais en général, pour la plupart d'entre vous, on vous conseille, et je vous l'ai conseillé moi-même, mais Didier Coudor vous l'a conseillé aussi, souci de présenter la facture, même si c'est pas demandé, au moins au brouillon. C'était pas obligatoire, bien sûr, de présenter la facture sur la copie à rendre, mais au brouillon, ça rend, après, il nous semble, les écritures plus faciles. Donc on vous les a présentées, sachez que ce n'était pas obligatoire sur la copie à rendre. C'est été présenté à titre pédagogique, bien entendu. D'accord ? Donc là, franchement, bon, encore une fois, pas de problème particulier, sinon le problème éventuellement des prestations de service avec option ou non sur les débits qui pourraient se présenter. Ensuite, le troisième dossier, les travaux mensuels. Alors, dans les travaux mensuels, il y avait justement le problème de la TVA. Alors ça aussi, bon, si vous avez écouté les vidéos que j'ai tournées là-dessus, le cours, etc., l'histoire de l'option ou pas sur les débits pour un prestataire de service, c'est quand même un grand classique, hein, on est bien d'accord, hein, le problème de lorsque l'on opte pour les débits quand on est prestataire de service alors que ce n'est pas obligatoire. Le problème, c'est que du coup, quand on facture à un client à qui on accorde un délai de règlement, du coup, chez nous, prestataires de service qui avons opté sur les débits, du coup, à la fin du mois, quand on fait la CA3 par exemple, eh bien, même si le client ne nous a pas réglé, on devra enregistrer et tenir compte de la TVA collectée même si le client n'a pas payé. Ce qui donc pose un problème potentiel de trésorerie, alors que, selon le droit commun, étant prestataire de service, ce n'est pas obligatoire d'opter pour les débits, et la TVA, dans ce cas-là, selon le droit commun, n'est considérée comme étant collectée que lors du paiement, ou à chaque paiement. C'est pour ça que ça pose un problème potentiel. Alors l'avantage quand même, c'est que ça facilite la comptabilisation en optant sur le débit, même si c'est pas obligatoire, parce que du coup les écritures vont plus vite à passer, puisque vous n'avez pas à identifier séparément la TVA en attente de la TVA collectée, par exemple. D'accord ? Donc c'est ça, et pareil dans l'autre sens, si vous étiez acheteur d'une prestation de service à un fournisseur qui a opté ou non sur les débits, dans l'autre sens, ça marche de la même façon. Bien entendu. Donc voilà, après la TVA, calculer la TVA à payer, donc là à décaisser au titre d'un mois, donc là il n'y a vraiment aucune difficulté, très franchement. Donc là voilà, bon, ça n'a pas dû vous poser problème. Après l'écriture, bah, c'est un grand classique, bien entendu, hein, de TVA, de liquidation de la TVA à la fin du mois. Ici c'était le mois de mai, mais franchement il n'y a pas de souci. Ensuite, la paie. Alors sur la paie, on vous demandait les trois éléments constitutifs du salaire brut. Accordez-moi que là c'était quand même pas difficile. Donc moi je vous en ai mis quatre, comme dans ce cours: salaire de base, heures supplémentaires, prime imposable, éventuellement avantage en nature. Donc ça, franchement, c'était pas très difficile. Alors c'est vrai que ça, ce genre de questions, ça vaut pas très cher, mais en même temps, ce sont des points vite pris. De la même façon, dans ce cas, la deuxième question, rappeler la formule du calcul, donc permettant à partir du salaire brut de déterminer le salaire net. Là aussi, hein, c'est un grand classique. Il y avait, si vous voulez, là, tous les éléments étaient donnés dans l'énoncé, donc il n'y avait pas de difficulté. Il n'y avait pas, par exemple, de fiche de paye à construire entièrement. Tout ça, c'était pas demandé. Il y avait tous les éléments, et en plus, il n'y avait pas de complexité majeure. Si on connaissait le cours, pour le salaire net à payer, salaire brut, moins les charges sociales, plus les remboursements de frais éventuellement, moins les acomptes versés, moins les oppositions, moins les éventuels avantages en nature. Les seules choses qu'il y avait à remplir ici particulières, c'était l'acompte et l'opposition, mais on vous les donnait dans l'énoncé. Donc franchement, c'était pas un problème. Le coût de rémunération ou la masse salariale, c'est le salaire brut plus les charges sociales patronales, tout ça dans le cours. Il n'y a pas de défini, déterminé, etc. Donc pas de souci. Pareil, de la même façon pour l'enregistrement des écritures comptables, donc liées à la paye. Donc ça, il n'y a pas de l'enregistrement de la paye. Là aussi, pas de difficulté majeure, très honnêtement. Donc voilà, c'est un grand classique. Il n'y a pas de piège, quel qu'il soit. le rapprochement bancaire, ensuite une autre part, la partie C. Première question, indiquer l'objectif du rapprochement bancaire et préciser son utilité. Bon, mais ça non plus, c'est pas bien compliqué, j'allais dire. C'est que du bon sens. Si vous avez travaillé 7 UE, vous connaissez le rapprochement bancaire, vous connaissez les principes, donc là, il n'y a pas de difficulté. Les écritures à passer compte tenu des opérations liées au, qu'on a déterminées dans le rapprochement bancaire, très honnêtement, il n'y avait pas de... c'était pas difficile, franchement. Hein, encore une fois, d'un point de vue technique, il n'y avait pas de soucis. Ensuite, dossier 4, donc les travaux d'inventaire. Il y avait une partie A là-dedans sur le matériel industriel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un amortissement? Vous voyez un peu, donc, c'est quand même un grand classique. Ensuite, calculer, enregistrer, deuxième question, calculer et enregistrer la nuitée d'amortissement relative à la mini-pelle dans ce cas-là. Il fallait d'abord calculer donc la base amortissable. Bon, là non plus, hein, là je crois que dans le cours c'est clair, net et précis, hein, la base amortissable comptable, c'est le prix d'achat plus les frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation, ici il n'y en avait pas, et moins le prix de cession net des frais de cession, donc moins la valeur résiduelle, et là il y en avait une de 10 000 euros, ce qui faisait une base amortissable de 20 000 euros. Enregistrer la nuitée d'amortissement, ici c'était vraiment très simple puisqu'il s'agissait d'un amortissement par unité d'œuvre, donc autrement dit proportionnel à la consommation des unités d'œuvre chaque année. Alors, comme il n'y avait pas de calculatrice, c'était forcément très très simple, hein, il n'y avait pas d'histoire de pro... Puis en plus, comme c'était des unités d'œuvre, pas d'histoire de prorata temporis, avec, etc., etc. Donc là, c'était 20 000 divisé par 2 000, puisqu'il y avait sur 3 ans 2 000 unités d'œuvre, et multiplié par 500 unités d'œuvre de l'année 2016. L'enregistrement, bon, c'est une formalité, bien entendu, de cette annuité d'amortissement. Ensuite, troisième question, sur la base de ces informations, la même chose, mais pour l'année 2017, donc c'est du copier-coller, sauf que la consommation des unités d'œuvre pour l'année 2017 était de 1500 au lieu de 500 pour l'année 2016, autrement dit, c'était 1000 au lieu de 500, donc c'était deux fois plus, autrement dit, l'annuité, eh bien, de 10 000 au lieu de 5 000, donc c'est juste le double, donc là, pas de difficulté majeure. Ensuite, présenter les écritures à la cession du tracteur en tenant compte de celles qui étaient déjà comptabilisées. Là, il n'y a vraiment pas de souci. C'est un très grand classique, franchement. Là aussi, dans le cours, je l'explique en long, en large, en travers, les vidéos, etc., etc. Alors, soit on s'appuie sur l'écriture erronée qui a été passée, soit, selon le cas, on annule l'écriture, on passe la bonne. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, ça dépend du cas. Mais enfin, bon, il n'y avait pas de calcul monstrueux, piégeux, là-dedans. Après, cinquième question et sixième question, là aussi, grand classique, c'est de montrer l'extrait du bilan. Là aussi, j'en parle avec les incidences, sur plusieurs années dans le cours, des opérations d'inventaire sur, ici, des IMO corporels. Donc, autrement dit, c'est le problème des soldes, des comptes, puisque dans un bilan, comme dans un compte de résultat d'ailleurs, mais enfin dans un bilan, pour ce qui nous intéresse ici, ce sont les soldes des comptes qui apparaissent, donc il faut bien comprendre le mécanisme qui... quelle est l'incidence des écritures sur le solde des comptes. Mais ça, c'est, accordez-moi que c'est le minimum que l'on puisse attendre d'un candidat en DCG, très franchement. Donc pas de difficulté là non plus majeure. Pour l'extrait il y avait les amortissements, donc, mais l'autre c'était l'actif, c'est-à-dire l'extrait concernant les immobilisations, et pour l'autre c'était les augmentations, les diminutions. Enfin bon, il n'y avait pas de soucis majeurs, hein. Le bilan, d'un côté l'extrait du bilan de l'actif et de l'autre la 2054 concernant les IMO, donc pas de soucis, logique, fallait bien faire attention, la valeur d'acquisition du tracteur, penser qu'évidemment, quand on a vendu le tracteur, ben, il a disparu de l'actif, mais pour sa valeur d'entrée, ben, là, dans le cours, si vous avez bossé le cours, vous n'avez pas de soucis majeurs, très franchement. Après, il y avait un problème, un dossier sur les créances douteuses et irrécouvrables. Bon, là aussi, un grand classique, pourquoi on fait une dépréciation sur créances douteuses quand même? Qu'est-ce que c'est qu'une dépréciation quand même? Et puis après, le fameux tableau, alors, qui vous était donné en annexe à remplir. D'accord? Donc, il n'y avait même pas à le construire soi-même. Donc, écoutez, tant mieux qu'on vous donne ce genre de choses, ça vous fait gagner du temps. Il n'y avait que deux clients douteux, pas de difficultés, franchement, pas de difficultés majeures, ni même de calcul, enfin tout ça, ça tombait juste, il n'y avait pas de problème. Les écritures là-dessus, bah forcément, hein, on, comme je dis toujours, hein, il y a deux, trois fondamentaux pour se présenter à l'examen de l'UNOP, c'est évidemment, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur les clients, sur les la dépréciation des comptes clients, sur les amortissements, sur les dépréciations, sur les factures d'achat de vente. Vous voyez, c'est les grands classiques, on ne peut pas, ça tombe tout le temps. Donc là, comme tous les ans, comme d'habitude, il y a un problème, une question sur cet ordre. Franchement, pas de souci. Après, des histoires de régularisation diverses, après, enfin, des écritures de régularisation diverses, là aussi, c'est grand classique, il n'y a pas de difficulté majeure. Donc, voilà, j'espère très honnêtement qu'évidemment que pour vous tous, ça s'est bien passé, que vous allez pouvoir vous en sortir et obtenir la moyenne, bien que, attention, en 3 heures, il faut quand même avoir 10 points, mais c'était, je pense que vous serez d'accord avec moi, tout à fait abordable. Ce qui est important à se rendre compte, hein, c'est pour ceux qui pourraient écouter ce message mais qui n'ont pas passé lieu cette année, après tout, vous pouvez présenter l'année prochaine, voire ceux qui malheureusement l'auraient raté, entendez bien ce que je vais vous dire maintenant, vous voyez que de plus en plus, il y a de questions de cours, de questions théoriques, il n'y a pas que de la technique. Alors ça, c'est lié au fait que la calculatrice est interdite, donc ils ne peuvent pas vous donner évidemment des choses techniques très très compliquées, par exemple avec des histoires d'amortissement dégressif, dérogatoire, avec des grandes différences, enfin qui complexifient tout de suite les calculs. Sans calculatrice, c'est pas possible. Alors, du coup, ils sont obligés, bien entendu, le ministère est obligé de donner des sujets plus théoriques, plus larges. Donc pensez bien à sans avoir à apprendre par cœur, il n'y a pas des milliers de définitions à savoir, mais enfin à relire plusieurs fois les parties théoriques, si vous voulez. D'accord? En tout cas, nous espérons, Contalia, que ça s'est passé le mieux possible pour vous. Bon courage. À bientôt. Merci, au revoir.